Bruxelles, ma Belge, Delphine Frécinet.
L'air du temps à présent avec une angoisse qui nous concerne toutes et tous à un moment donné de notre vie. Est-ce que je vais pouvoir vieillir chez moi, dans ma maison, mon appartement? Alors c'est pas une simple question de santé et d'autonomie, hein, mais aussi de moyens financiers. Ma pension ne me le permettra peut-être pas. Ne parlons même pas du home, maison de repos ou résidence service, qui a généralement un tarif mensuel qui coûte les yeux de la tête. Alors comment bien vieillir? Est-ce qu'il y a des solutions alternatives? Parce que finalement, les plus de 65 ans en Belgique représentent 20% de la population. Eh bien, c'est ce qu'on découvre, hein, donc ces solutions alternatives, plus précisément le béguinage, c'est ce qu'on découvre dans l'actuel numéro en kiosque de Médor, le numéro 34. Médor, le magazine d'investigation indépendant, notre partenaire mensuel. Médor qui nous propose donc cette enquête dessinée, vieillir ensemble, des béguinages aux habitats communautaires. Une enquête signée Elsa Pecot et Margot Englebert. Margot qui s'est chargée de la partie dessinée et qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Margot.
Bonjour Delphine.
Alors Margot, dans cette enquête, on voit Elliot et Alice. Alice qui doit partir de chez elle et qui ne sait pas où aller. Ce sont des personnages de fiction, mais finalement elles représentent toutes les autres.
Oui, bah c'est un peu ce qu'on a voulu faire avec Elsa, c'était montrer un parcours un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir une fois passé la retraite, où cette idée on l'a pas eue tout de suite,
ouais.
Et en fait surtout on avait déjà fait un premier projet ensemble où en fait on parlait des conditions de vie en maison de repos pendant le confinement, et là on avait pu voir que c'était vraiment catastrophique et encore plus après. Je fais partie d'une association qui s'appelle Bras Dessus, Bras Dessous, et grâce à laquelle je suis en lien avec une personne âgée qui habite dans une maison de repos.
On la connaît, cette association. Ah. On avait eu effectivement un reportage sur cette association.
Super.
Oui, voilà. Qui fait du lien entre
c'est
générations.
Ouais. Et donc, grâce à cette association, je suis devenue amie avec Eliane qui habite en maison de repos depuis 6 ans. Et en allant la visiter, je voyais les conditions de vie dans lesquelles elle était, avec le prix exorbitant qu'elle payait pour ça. Et donc, lorsque j'ai proposé à Elsa et Juliane Rémy à l'époque de faire une bande dessinée ensemble pour parler de ces conditions de vie, on l'a fait. C'est paru dans un magazine qui s'appelle Alter Echo. Et donc, après cette expérience, j'ai voulu revenir vers Elsa pour lui proposer un nouveau projet à faire ensemble. Et à ce moment-là, elle m'a parlé des béguinages. Ou que moi je ne connais pas très bien, pourtant je suis belge et on en a en Belgique, tout le monde connaît le béguinage de Bruges, qui est connu à l'international, même les touristes.
Oui, c'est vrai, là-bas. Mais c'est vrai que, étant française, c'est vrai que par exemple en France, on a une image des béguinages qui a un côté religieux.
Oui,
voilà.
Ou quasi inexistante,
oui,
mes amis français ne connaissent pas les béguinages non plus, et moi-même je n'en connaissais pas grand-chose, je pensais que c'était juste un autre nom pour dire couvent.
Et ouais, ça aurait pu.
Oui,
c'est vrai.
Mais pas tout à fait.
Ouais.
Justement, c'est ce que j'ai appris après. Donc, avec Elsa, on s'est mis à travailler là-dessus et on a découvert que aujourd'hui, il y a des alternatives qui sont similaires au béguinage qui existent dans l'Europe, notamment à Paris, les Baba Yaga.
Les Baba Yaga. Mais voilà. Même ici aussi, en Belgique, hein, il y a des habitats partagés,
oui.
Des colocs. Enéo aussi, l'un de nos partenaires, François Vérol, était venu nous en parler, ce style de colocs. Ça veut dire qu'il y a une vraie préoccupation, qu'il y a un vrai sujet, que nos habitudes de vivre en société changent et à tous les âges.
Oui, c'est ça que je trouvais vraiment fascinant. C'est parce que les béguinages, c'est arrivé
Ça a été créé au XIIe siècle.
C'est ça, à la fin du XIIe siècle, à Liège d'ailleurs.
Oui.
C'est une petite spécialité belge
on peut s'enorgueillir, c'est
exactement.
Vrai.
Mais donc, ce qui est fascinant, c'est de voir que c'est arrivé au XIIe siècle, mais encore aujourd'hui, des lieux vraiment similaires au béguinage sont en train de naître à nouveau. À Bruxelles notamment, il y a un béguinage qui est arrivé à nouveau à Saint-Josse, où il y a 3 béguines et 3 sœurs qui co-vivent ensemble. Mais il y a d'autres béguinages, notamment à Louvain ou ou à Liège. À Liège, il y en a deux même.
Ouais. Vous le dites effectivement, hein, dans cette enquête des cinémas. Mais revenons justement à la genèse, hein, que vous avez très bien expliqué, Margot. Moi, je voudrais savoir aussi quand vous en avez parlé, j'imagine que en tout cas votre amie Eliane et d'autres personnes âgées que vous connaissez ont dû vous dire mais tant mieux, enfin que tu parles de nous, ou elles étaient un petit peu circonspectes en se disant mais t'es sûr que ça va faire un sujet. Enfin, voyez ce que je veux dire, Margot, parce que des fois ce sont les principaux intéressés qui se disent pourquoi tu parles de moi.
Ah oui, moi je n'ai pas eu beaucoup cette impression. En tout cas, quand on avait parlé d'Eliane et de sa vie en maison de repos, je crois qu'au contraire, elle était très touchée.
Oui.
Et elle se disait, mais c'est important qu'on parle de ça, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui de comment on traite nos aînés et dans quelles conditions on leur laisse finir leurs jours. Et je trouve ça vraiment abominable qu'au prix qu'ils payent, ils n'aient pas le droit à avoir une belle fin de vie.
Oui.
C'est pour ça que ces béguinages et ces lieux de vie en communauté, c'est vraiment important qu'ils existent et qu'ils subsistent.
Ouais. Donc c'est vrai qu'effectivement cette enquête, c'est né d'un constat, d'une colère aussi, d'une volonté de montrer les choses autrement. Comment vous êtes partagé le travail avec Elsa? Vous étiez toutes les deux, ou à un moment c'est vous qui dessinez? Enfin, dites-nous comment vous avez travaillé.
On a vraiment beaucoup travaillé à deux. Enfin, on était en contact vraiment constant. Ce n'est pas elle qui a fait toutes les recherches et qui m'a tout envoyé. Moi qui ai tout fait de mon côté, et
voilà, c'était vraiment
on a mis
commun.
Nos deux noms dessus, c'était vraiment très commun de A à Z, et même au niveau des recherches. Enfin, finalement, j'ai aussi pas mal participé parce qu'elle habite en France. Donc, par exemple, quand il fallait rencontrer des gens sur place, c'est moi qui y allais en la mettant en appel, mais ça faisait que je participais aussi au niveau des interviews où je me sentais un peu journaliste.
Et donc, ça aussi, une première, finalement, pour vous, Margot.
Oui.
Donc, c'était chouette. Vous avez pu poser toutes les questions que vous vouliez à vos interlocuteurs et interlocutrices.
Oui. Notamment, il y a un lieu dont je voulais parler. C'était un peu une frustration parce qu'on n'a pas pu beaucoup en parler dans la bande dessinée. Mais il y a une page pour ça. C'est le lieu Calico, qui se trouve à Forêt aujourd'hui. Et en fait, c'est un complexe d'appartements où plusieurs ASBL se sont réunis pour créer plusieurs projets ensemble, dont l'association Angela D, qui est une association féministe pour le droit au logement des femmes.
Et ça, c'est plus pour les femmes précaires, c'est ça.
Et donc, dans ce lieu-là, il y a notamment des femmes âgées qui vivent ensemble et qui ont chacune leur appartement. Mais avec Elsa, on trouvait qu'il y avait un rapprochement avec les béguinages à ce moment-là, même si le côté religieux n'est pas du tout présent, lui.
Non, mais comme il n'était pas forcément présent non plus au tout début, c'était une façon de vivre autrement pour ces femmes. C'était pour les femmes qui n'étaient pas mariées ou qui étaient veuves et qui se retrouvaient seules. Donc elles se mettaient en commun. C'était ça. C'était une affaire de protection aussi. Et en termes justement de protection, aujourd'hui, Margot Englebert, c'est aussi important finalement la protection, de se sentir en sécurité pour les femmes, parce que finalement, à tous âges, les violences faites aux femmes, ça nous concerne.
Oui, exactement. Et le manque de moyens aussi, parce qu'on a... Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais jusqu'à récemment, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes en matière de travail. Et aussi de comment travailler, parce que dans la bande dessinée, on en parle. Mais
oui, vous parlez des inégalités, inégalités hommes-femmes, à la fois dans le travail, mais forcément, il y a des répercussions dans la pension.
Oui, parce que quand une femme est enceinte, qu'elle accouche, c'est elle qui va s'occuper de l'enfant, donc elle arrête de travailler pendant un certain temps. Quand l'enfant est malade, c'est elle qui s'en occupe. Donc, par rapport à son compagnon, c'est elle qui va cotiser le mois pour la retraite.
Il y a plus de temps partiel,
plus de temps partiel également, et plus de femmes qui restent à la maison et où ça reste du travail impayé, parce qu'on ne considère pas qu'être femme au foyer, c'est un vrai travail aux yeux de la société.
Et
alors
pourtant, c'en est un.
Mon Dieu.
Ça, c'est sûr. Et puis, surtout aussi, tout simplement, la différence de salaire entre hommes et femmes, même quand les femmes travaillent, il y a une différence à peu près de 20%, c'est ça? Les inégalités salariales, quoi qu'il arrive. Même quand il n'y a pas de temps partiel, quand il y a tout ça. Et c'est vrai que... C'est important aussi de parler du féminisme aussi par ce biais un petit peu tabou, comme vous le répétiez, bien de la situation des femmes âgées notamment. Oui, bien sûr. Non, ma question est un petit peu débordée. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ce sujet des personnes âgées, en tout cas la femme âgée, on n'en parle pas tant que ça dans nos sociétés. Ça aussi, c'était pour lutter un petit peu contre un tabou et montrer la situation réelle de ces femmes.
Ah oui, totalement. Mmh. C'est pour ça même que j'étais un peu étonnée qu'on n'en sache pas autant sur les alternatives qui existent pour les femmes ou... Enfin, comme je disais, les béguinages qui ouvrent un peu plus aujourd'hui. Moi, je n'étais pas au courant avant de travailler sur ce sujet ou sur le projet Calico avec Angela Day. Pareil, je n'étais pas au courant que des choses comme ça pouvaient être mises en place pour les femmes et pour qu'elles vivent dignement.
Oui. On va marquer une pause musicale et on se retrouve juste après. Bruno Mars. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me. Like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Count on me, c'était Bruno Mars. Count on me, compte sur moi. Ben finalement, c'est ce principe-là hein, des béguinages. Margot Englebert, hein, je rappelle que vous avez signé cette enquête dans Médor. Enquête, vous la dessinez, mais vous l'avez faite en collaboration avec Elsa Pécaud. Hein, un travail vraiment en commun. Donc les béguinages, c'est vraiment the place to be quand on est âgé, finalement, quand on est senior.
Je pense que peut-être aujourd'hui, oui, un peu plus. Mm-hmm. Mais oui, parce que je trouve que encore plus aujourd'hui, il y a quelque chose dans les yeux de la société où on sous-estime beaucoup les personnes âgées et où on s'imagine que passé un certain âge, il faut les laisser dans un coin et les occuper de temps en temps, alors que...
Et les infantiliser d'une certaine manière. Ouais. Les laisser de côté.
Enfin, quasi inhumain. Alors que oui, je pense que si il existe des lieux dans lesquels ils peuvent aller librement et vivre et être totalement indépendants, je trouve ça aussi beau, et c'est notamment ce que les béguinages ont su créer à une époque.
Ouais.
Par contre, on parle beaucoup des personnes âgées, mais à la base, les béguinages, c'était surtout intergénérationnel.
Comme il y a aussi des habitants intergénérationnels aujourd'hui. Avant de parler plus précisément des béguinages, moi, je me demandais, Margot, si le fait aussi d'avoir enquêté sur ce sujet, d'avoir rencontré des seniors et tout pour avoir leur témoignage, ça vous avait fait aussi poser un autre regard sur vos propres grands-parents, sur votre propre famille. Est-ce que vous vous avez dit, tiens, mais est-ce que je leur avais posé la question, comment ils vivaient, comment ils vivent la chose ?
Moi, j'ai eu de la chance, enfin, mes grands-parents ont eu de la chance parce qu'aucun d'entre eux n'a eu à aller en maison de repos et... Je n'ai plus qu'une seule grand-mère aujourd'hui, mais mes deux autres grands-parents qui sont décédés aujourd'hui, eux, ont pu vivre chez eux
jusqu'au bout
parce qu'ils étaient entourés d'une famille très présente et très proche. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là, évidemment. Mais non, j'avoue que pour mes grands-parents, eux, c'était un peu évident qu'ils allaient rester chez eux parce que c'était leur choix aussi. Il y en a où leur choix, ça va être de vivre en maison de repos ou d'aller ailleurs ou de vivre dans leur famille.
Mais parce qu'effectivement, ce sont des questions. En tout cas, vous posez bien toute la situation dans vos dessins, Margot. Puisqu'effectivement, donc je reviens à ces personnages de fiction, Eliette et Alice. Alice qui dit, bah oui, je vais pas avoir la pension suffisante pour rester chez moi. Mon fils m'a proposé de m'héberger, mais bon, c'est pas simple. Enfin, vous montrez tous les cas de figure, et à la fin, c'est je veux choisir. Je veux choisir, oui. C'est ça qui compte.
C'est quelque chose où, au-delà pour mes grands-parents, je pense même à moi, où je n'ai que 25 ans aujourd'hui. Donc
oui, vous avez encore un petit peu le temps de penser à la pension, ça c'est sûr.
C'est pas tout de suite, mais je pense qu'en vieillissant, ça peut être quand même quelque chose de rassurant de savoir qu'il existe plusieurs choix et qu'il y en a qui sont plus humains que d'autres et qui peuvent plus nous correspondre que d'autres aussi.
Quel mot vous utiliseriez pour définir comme ça béguinage, comme ça spontanément?
Communauté, je pense.
Et alors tiens, je me demandais juste une chose, puisqu'on parle de béguinage, on parle de béguine, on parle des femmes, mais est-ce qu'on parle des béguins pour les hommes, ça existe?
Oui, ça existe, mais ça s'appelle des bégards.
Des bégards, ouais.
Et ils ont existé en même temps que les béguines. Il y a eu des béguinages hommes, mais qui y a eu moins d'engouement que pour les femmes.
Oui.
Pour les femmes, c'est au XIIe siècle qu'elles sont arrivées en Europe, mais au XIIIe siècle, il y avait 1 million de béguines à travers l'Europe, ce qui, à l'échelle de cette époque du Moyen-Âge, ce n'était pas rien du tout. Mais il y avait beaucoup moins d'hommes que de femmes, ça c'est sûr, et eux, ça s'est un peu vite essoufflé, alors que pour les femmes, c'est une force qui est restée pendant des siècles après.
Ouais, mais c'était une façon finalement d'être autonome, de s'affirmer. C'était du féminisme qui disait pas son nom, quoi.
Oui, je pense pas qu'on puisse utiliser le terme féministe.
Oui, il est anachronique.
On l'a découvert nous-mêmes avec Elsa en cherchant. C'est que oui, le terme féministe est anachronique pour les béguines. Mais en tout cas, ça se rapproche de l'idéologie féministe aujourd'hui. C'est que à plusieurs moments, des institutions, des hommes surtout, ont quand même tenté d'éteindre le mouvement béguinal, mais elles étaient si nombreuses et tellement fortes et indépendantes qu'elles ont quand même réussi à traverser les âges, ce que je trouve assez incroyable. Parce que il y a eu un béguinage à Bruxelles qui a quand même été assez énorme. Il y a eu jusqu'à plus d'un millier de maisons de béguines dans Bruxelles, ce qui est encore plus fou qu'aujourd'hui, presque personne ne sait que ces maisons existaient et qu'il y a eu autant de femmes béguines dans Bruxelles. Mais notamment, elle travaillait par elle-même.
Oui, c'est ça qui est important de dire, hein, c'est que ces béguines, elles dépendaient pas des autres. Elles avaient le droit, elles n'avaient, puisqu'on parlait de ce rapport à la religion, elles n'avaient pas fait vœu de pauvreté.
Oui, en fait.
Donc elles pouvaient travailler.
Elles n'étaient pas rattachées à l'église, donc elles n'étaient pas obligées de faire tous les vœux qu'on pouvait retrouver dans un couvent notamment. Donc oui, il n'y avait pas de vœux de pauvreté. Et notamment, elle pouvait faire les autres vœux, mais elle pouvait aussi revenir sur ses vœux. Elle pouvait quitter ou revenir dans le béguinage. Il y avait énormément de liberté qui était prise quand même à ce niveau-là.
Ouais. Moi, ce que j'entends, Margot Englebert, c'est qu'avec Elsa Pécaud, mais vous avez fait une enquête sociologique et historique. Hein. Vous êtes plongée corps et âme, on va dire, dans le béguinage. Enfin, ça vous a pris du temps.
Oui, ça nous a pris beaucoup de temps. Là, je pense que en septembre, on fêtera les 2 ans de recherche.
Ouais, 2 ans de recherche.
Après, ça a été beaucoup parsemé parce qu'on n'habite pas dans la même ville.
Oui.
Mais on a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens pendant ces temps de recherche, notamment Apolline Vranken.
Mm-hmm.
Si les sujets des béguinages vous intéressent, je vous conseille vivement de lire son mémoire. Des béguinages à l'architecture féministe. C'est un magnifique ouvrage qui parle notamment du béguinage de Bruxelles. Et on a eu aussi l'occasion de rencontrer l'historien Roel Jacobs, qui est passionné de l'histoire de Bruxelles. Donc il a pu nous parler en long, en large du Bruxelles du Moyen-Âge. Et on a eu aussi l'occasion de rencontrer l'artiste Sylvie Lechat, qui s'est beaucoup passionnée des béguines. Donc oui, rencontrer tous ces gens, ça prend du temps. De regrouper un peu tous ces témoignages.
Oui, et puis après, vous appuyez effectivement sur leurs travaux. J'imagine aussi après aller sur place peut-être pour s'imprégner des lieux. Parce que justement, comment vous avez dessiné les lieux? Comment vous avez utilisé le matériau pour vos dessins?
Ça a été un peu compliqué parce qu'une partie de la bande dessinée, je dessine un béguinage du 14e siècle.
Ouais.
Sauf qu'en fait, il n'y a pas de traces du béguinage à cette époque-là.
Oui, parce qu'effectivement, il y a bien un musée du béguinage en Anderlecht, une maison béguine, mais elle date pas du tout de cette époque.
Non, pas du tout. Et même l'église du béguinage qu'on connaît aujourd'hui, l'église Saint-Jean-Baptiste, dans le centre de Bruxelles, elle date du XVIIe siècle.
Oui.
Donc, c'est totalement anachronique avec la période qu'on voulait dessiner. Donc, pour ça, j'ai dû trouver des petites... images d'archives un peu de Bruxelles au Moyen-Âge, mais donc faire un petit mix entre mon imagination et ces images-là.
Et puis vous appuyez sur les documents que vous aviez qui peut-être décrivaient un petit peu, sans trop décrire les lieux, mais l'ambiance, quoi.
Oui, c'est ça, ou des images. À un moment, je montre des béguines qui travaillent la laine.
Oui.
Et pour ça, c'est l'artiste Sylvie Lechat qui avait des livres d'histoire sur les béguines et qui avait donc des gravures de l'époque qui montrent de ces femmes au travail. Et donc, pour cette partie-là, je me suis basée là-dessus. Mais oui, pour dessiner le Bruxelles du 14e siècle, ça a été un peu compliqué.
Ouais. Voilà. Et puis, vous dessinez, bien sûr, le Bruxelles actuel, avec Elliot et Alice, qui sont ces témoins, ces personnages fictionnels, mais encore une fois, c'est la petite histoire pour raconter la grande histoire.
Oui, c'est ça. Bah oui, ces deux personnages représentent un peu la détresse que beaucoup de femmes âgées peuvent retrouver en n'ayant plus les moyens de vivre seules chez elles et de se dire mince, qu'est-ce que je fais maintenant?
Oui.
Je n'ai pas de famille chez qui habiter ou qui est proche de moi pour prendre soin de moi. Comment je peux faire?
Oui, c'est une manière de tirer la sonnette d'alarme aussi sur la solitude qui gagne du terrain, cette BD, finalement.
Oui. Ah oui, totalement, parce que avec les maisons de repos, il y a un côté très individualiste qui a commencé à se pérenniser dans notre société. Et je trouvais ça intéressant de voir qu'il y a un petit retour en arrière, qu'il y a un bond en avant en même temps, où c'est toutes ces femmes qui se retrouvent ensemble, ou femmes ou personnes âgées en général, qui se retrouvent ensemble pour se dire on va se soutenir
on va s'entraider, c'est ça la valeur forte.
Et on ne va pas se laisser seul face à la solitude.
Ouais. Quand vous avez parlé de ce projet, et maintenant, puisque c'est publié dans Médor, de cette enquête dessinée, vous avez eu aussi quelles réactions, pas forcément de personnes âgées, mais de personnes de votre âge, plus jeunes, ou même de vos parents, enfin voilà.
Mes amis notamment, ils trouvaient ça très intéressant parce qu'ils n'imaginaient pas que ça puisse exister encore aujourd'hui. Et j'ai beaucoup d'amis français, donc déjà eux ne savaient même pas que les béguinages existaient, parce que les béguinages ont existé dans toute l'Europe, mais au XIIIe siècle, ceux de toute l'Europe ont fermé, sauf sur les territoires flamands, grâce à une bulle papale. Mais donc, finalement, les béguinages, aujourd'hui, ne sont connus qu'en Belgique et aux Pays-Bas, et peut-être dans le nord de la France. Mais c'est un peu tout ce qu'il reste de ça. Et c'est vrai que apprendre un peu toutes ces petites informations à mes amis, à ma famille, et aux gens autour de moi, je trouvais ça vraiment chouette d'un peu faire revivre ces lieux-là aussi.
Oui. Et pour se renseigner sur comment s'organiser pour le béguinage, on contacte qui ?
Pour l'organisation, en tout cas, c'est Apolline Vranken qui a eu l'amabilité de répondre à nos questions. On s'est appelé il y a longtemps maintenant, mais on lui avait posé plusieurs questions à ce niveau-là, et même son mémoire est extrêmement complet à ce niveau-là.
Ouais.
Et elle parle bien de l'organisation, où notamment il y a une grande dame qui est élue tous les 2 ans dans le béguinage et qui est celle qui va un peu diriger le tout. Et donc, il y a aussi un côté très démocratique à tout ça aussi. Et toute la vie est aussi centrée autour de l'entraide. Comme elles ne font pas vœu de pauvreté, par exemple, les béguines les plus âgées vont pouvoir aider les plus pauvres à se loger ou à subvenir aux besoins de l'infirmerie, par exemple, ou de l'école ou de l'église.
Alors aujourd'hui, ça va pas être le même modèle, bien sûr, Mais justement, comment on se renseigne aujourd'hui si des personnes âgées qui nous écoutent se disent tiens, moi ça m'intéresserait bien. Où est-ce comment on fait pour vivre sous cette forme-là aujourd'hui? On se rapproche de qui? J'ai cité Enéo tout à l'heure pour des habitats partagés, mais il y a aussi d'autres en association. Je crois qu'il y a aussi Vivre en béguinage. Enfin, il y a pas mal de choses, mais
oui, ça, je pourrais pas beaucoup répondre à cette question, mais je pense que Internet, moi, m'a apporté toutes les réponses à ces questions-là. Donc, je sais qu'à Bruxelles, en tout cas, il existe beaucoup de lieux comme celui-là. Je parlais de Calico tout à l'heure.
Oui.
Il y a aussi un béguinage à Saint-Josse, à Liège. Il y en a plusieurs aussi, comme je disais tout à l'heure. C'est pas les ressources qui manquent.
Non, ça c'est vrai. Est-ce que c'est un sujet, Margot, que vous avez envie, maintenant que cette enquête dessinée est publiée, est-ce que c'est un sujet que vous avez envie de poursuivre, de creuser après pour voir, dans les nouvelles formes de béguinage, est-ce qu'on peut s'attendre, je sais pas, un jour à une enquête sur les Baba Yaga, par exemple, en France?
Ça, on avait eu cette idée avec Elsa au début de parler des Baba Yaga, et où il existe aussi en Allemagne, il existe un système un peu similaire, et en Pologne aussi, si je ne me trompe pas, mais ça, je me trompe peut-être. Mais donc, au début, on avait eu cette idée-là, mais comme on est venu avec le projet vers Médor, et que Médor est quand même un magazine bruxellois.
Bien sûr.
On a préféré se centrer sur la Belgique.
Oui, bien sûr. Non, c'est important. Il faut en parler. Mais ce que je veux dire, est-ce que après, vous avez envie, un jour de refaire une enquête, sur le béguinage avec des témoignages de comment ça se passe? Par exemple, le projet Calico, d'aller voir un petit peu plus comment ça se passe et de recueillir des témoignages.
Ça, j'aimerais beaucoup, parler plus de Calico, à voir si eux seraient d'accord de faire ça, mais, parce que moi, j'ai eu l'occasion d'aller 3 fois sur place, où il y a 2 habitantes, Isabelle et Claire, qui ont eu la gentillesse de me faire visiter les lieux.
Et ça se trouve où?
Ça se trouve à Forêt.
Oui, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, à Forêt.
Voilà.
Dans quelle partie de Forêt?
Ça, je ne saurais plus exactement.
Oui, c'est pas grave, j'ai l'impression que vous posez une colle là, comme ça. Voilà. Mais oui, et donc, rappelez pour les auditeurs ce projet Calico, donc, à Forêt, qui concerne donc.
À Calico, en soi, c'est un complexe d'appartements. Voilà. Il y a plusieurs ASBL dedans, dont celle d'Angela D, dont je parlais tout à l'heure, avec les femmes âgées,
les
notamment,
femmes
mais aussi
précaires.
Des femmes, des femmes précaires en grande partie, mais elles mettent un point d'honneur à mettre plusieurs personnes âgées dedans.
Oui.
Mais il y a d'autres ASBL aussi, je ne saurais plus citer les noms, mais notamment, il y a un lieu de mourance et de naissance, dont, par exemple, parmi Angela Day, il y avait une femme âgée qui est décédée et elle a eu l'occasion d'aller dans ce lieu de mourance pour être accompagnée jusqu'au bout. Et
C'est des soins palliatifs, mais chez
exactement,
soi, quoi.
Exactement, où il y a un infirmier, une infirmière qui vient tous les jours pour la voir, mais où elle reste dans un cocon un petit peu.
D'accord.
Qui est un peu mieux que l'hôpital.
Oui.
En tous les cas, et il y a d'autres associations.
Oui, c'est une pépinière d'associations, toujours sur ce même thème, donc du partage et de l'entraide.
Oui, et où il y a plus, enfin, il y a beaucoup d'interactions entre les personnes qui habitent dedans, où par exemple, il y avait Isabelle qui fait partie d'Angela D, qui elle aidait à une école de devoirs pour les enfants des autres femmes précaires. Je trouvais ça vraiment beau aussi. Je crois que tous les mercredis, il y a un repas commun où chacun qui veut peut participer.
Oui. Ouais. Ouais, très bien. Merci beaucoup, Margot Englebert. Je rappelle donc que vous dessinez cette enquête que vous avez menée donc avec Elsa Pécaud. Donc voilà cette enquête sur le fait de vieillir et ce béguinage, cette nouvelle alternative de logement. Voilà, vieillir ensemble, des béguinages aux habitats communautaires. J'ai cité le bon titre. Et cette enquête, vous pouvez donc la retrouver dans le numéro actuellement en kiosque de Médor, le numéro 34. Merci beaucoup,
merci
Margot.
À vous.